Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pour un Jeff Koons ou un Damien Hirst, combien d'artistes plasticiens qui peinent à boucler leur fin de mois ? Le marché de l'art contemporain notamment donne le tournis, les sommes atteignent des niveaux stratosphériques. Mais comme dans d'autres domaines, on pense au football notamment, les vedettes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il faut avoir la vocation bien chevillée au corps pour en faire son véritable métier et donc son principal gagne-pain. Le thème de la précarité chez les artistes est pourtant peu abordé. C'est que le monde de l'art est aussi un lieu de pouvoir dans lequel ceux qui produisent des œuvres sont souvent tributaires du bon vouloir de ceux chargés de les diffuser. Une forme de subordination qui n'encourage pas la révolte. Alors pour corriger les inégalités de redistribution d'un milieu où l'argent ne manque pourtant pas, un collectif propose aux institutions notamment d'adhérer à une charte qui prévoit par exemple que toute production, exposition, diffusion ou publication d'une création donne lieu à une rémunération de l'auteur. C'est donc que ça n'est pas toujours le cas. Alors artiste plasticien, toute œuvre mérite-t-elle salaire ? Eh bien, c'est la discussion que nous allons avoir ce soir jusqu'à 19h, depuis donc la nef du Grand Palais à Paris, dans le cadre de la FIAC, Foire Internationale d'Art Contemporain. Et nous allons mener cette discussion en compagnie de quatre invités, à commencer par vous, Marion Verboom, bonsoir. Vous êtes artiste plasticienne, vous faites notamment de la sculpture. Votre première exposition personnelle, c'était au début de l'été à Paris, à la galerie Jérôme Poggi. Vous avez également en projet une installation, une fresque à venir au Palais de Tokyo. Ce sera au mois de janvier. Puis on peut également voir une de vos œuvres à la maison Chloé, c'est toujours à Paris. On ne va pas énumérer tous les projets, mais vous avez notamment un site qui est mis à jour. Donc on peut essayer de voir ce que vous faites et de vous suivre. Pour discuter avec vous, Nathalie Nick, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous avez notamment publié, vous vous intéressez en particulier à la question de l'art contemporain chez Gallimard, c'était en 2014, le paradigme de l'art contemporain, et de cet ouvrage a été tirée une bande dessinée publiée l'an dernier, l'artiste contemporain, c'est vous qui signez les textes, les dessins c'est quelqu'un d'autre, c'est le dessinateur Bona Froumont. Bande dessinée publiée aux éditions Le Lombard. Troisième invité, Caroline Schirman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, vous avez travaillé en tant que juriste au Centre Pompidou pendant une dizaine d'années. Vous avez ensuite ouvert une galerie, la galerie Schirman et de Bossé. Vous n'y êtes plus désormais, vous donnez notamment des cours. Et vous avez publié cette année un ouvrage qui mériterait sans doute d'être lu par tous les artistes en devenir. L'artiste et son marché aux éditions Filigrane, qui consiste en une sorte d'ouvrage pratique à destination justement de ceux qui veulent se lancer dans cette activité. Et puis notre quatrième invité, c'est Grégory Jérôme. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du service de formation continue de la Haute École des Arts du Rhin, qui regroupe en fait plusieurs établissements à Mulhouse et à Strasbourg, et par ailleurs membre fondateur de ce collectif que j'évoquais en introduction à l'émission, Économie solidaire de l'art, qui propose donc une charte pour une meilleure redistribution en faveur des artistes. Alors c'est donc de la façon dont les artistes aujourd'hui, et en particulier les artistes plasticiens, peuvent vivre de leur art dont nous allons parler aujourd'hui. Et je voudrais commencer, c'est logiquement avec vous, Marion Verboom. Est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que plasticienne, vous vivez de vos œuvres, et est-ce que vous en vivez bien ?
Alors, ça fait un an et demi que j'arrive à vivre presque totalement de mon travail artistique, tout en sachant qu'à côté, il y a quand même une sorte de petit parachute financier qu'il est préférable d'avoir. Donc, j'organise des petits cours de peinture qui me permettent d'avoir un revenu, mais tout en ne coupant pas mon temps de ma propre pratique, parce que c'est ça qui est important, c'est de toujours gagner, de toujours avoir cette priorité en tête, que le travail est plus important pour moi que mon revenu financier.
La plupart de vos collègues ont justement toujours un petit boulot, un grand boulot d'ailleurs à côté, mais pour compléter les revenus quand ils ne sont pas suffisants.
Alors il m'est arrivé il y a 2 ans d'avoir un temps partiel que j'ai très vite abandonné parce que j'ai eu la possibilité de vendre une pièce. Et voilà, donc il faut toujours jongler justement entre ce qui nous arrive et ce qui va toujours être prioritaire et le moment où il nous reste 3 euros sur notre compte en banque et qu'il faut rentrer dans la faire rentrer des sous dans, sur le compte en banque.
Et oui, car les artistes mangent, hein, notamment. Nathalie Hennig, si on devait situer les artistes plasticiens sur une grille en termes de niveau de vie, est-ce qu'il faudrait les mettre quoi, dans les classes moyennes, plutôt dans les précaires, plutôt dans les personnes qui ont beaucoup d'argent, ou bien est-ce que c'est un peu compliqué parce que chaque cas est particulier ?
Chaque cas n'est pas particulier, mais il y a des cas extrêmement différents, il y a des catégories de cas. Alors du point de vue de l'INSEE, du point de vue administratif, ils sont classés en cadre et profession intellectuelle supérieure, mais bon, c'est une catégorisation assez conventionnelle, puisque des artistes peuvent gagner beaucoup, beaucoup d'argent, et d'autres, pas du tout. Et je pense que le principal mécène de l'art aujourd'hui, c'est le RSA. Hein. Il y a énormément d'artistes qui vivent du RSA. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Les effectifs de la Maison des artistes, c'est-à-dire l'organisme de sécurité sociale des artistes, ont triplé en une génération, ce qui veut dire qu'il y a un énorme appel, hein, un énorme attrait de cette position, qui fait qu'il y a de plus en plus d'artistes et évidemment souvent de grandes difficultés à pouvoir vivre de son art pour cette raison-là. Donc les revenus sont extraordinairement variables, et entre artistes et à l'intérieur même d'une carrière d'artiste, hein, entre le moment de l'entrée dans la carrière et puis le moment, disons, de la reconnaissance.
Mais est-ce que vous dites de l'importance du RSA justement pour assurer un minimum de niveau de vie aux artistes, ça témoigne quand même, est-ce que vous partagez ce constat, Grégory Jérôme, d'une forte précarité justement dans ce milieu, avec bien sûr quelques exceptions, les grands noms dont on parle le plus souvent, mais que dans la majorité des cas, on est plutôt dans une forme de précarité pour les plasticiens?
Oui, je confirme, effectivement. Il se trouve que les artistes peinent véritablement à tirer de leur activité un revenu. Et ils sont bien souvent conduits à exercer, ou à rechercher ailleurs le revenu qui manque à la création, quoi. Et ce temps passé à l'activité concurrente ou à l'activité accessoire a pour effet d'étendre, de rallonger le temps nécessaire à la position, au fait de prendre pied dans la profession.
Donc c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour Exactement. Pouvoir vivre, il faut travailler ailleurs, et parce qu'on travaille ailleurs, finalement, on va peut-être moins produire, moins être visible dans le milieu, et ça rallonge, ou peut-être même d'ailleurs, ça peut aussi décourager un certain nombre d'artistes.
C'est ce qu'on observe, effectivement, c'est ce risque majeur qui l'abandon de la profession artistique au profit d'autres activités concurrentes. Et c'est bien dommage, parce que quand on considère l'investissement considérable que représentent les formations en école d'art, qui durent pour l'essentiel 5 ans, on pourrait traduire ça par une sorte de pénalité. C'est-à-dire, en dépit du niveau de formation relativement élevé dont les artistes qui font preuve, le revenu peine à venir.
Eh bien, est-ce que justement, ça n'est pas au niveau de la formation qu'il y a peut-être certains manques, Caroline Schirmann, et notamment sur la bonne connaissance des dispositifs qui peuvent aussi peut-être permettre aux artistes, et en particulier, puisque c'est de dont on parle ce soir, aux artistes plasticiens, d'entrer dans des dispositifs qui peuvent leur permettre quand même d'être rémunérés. Est-ce que ça existe suffisamment aujourd'hui dans les écoles d'art ?
Alors, dans les écoles d'art, c'est assez rare. Vous avez des écoles d'art, effectivement, qui forment, qui prennent le biais de former les artistes sur la vie professionnelle, autre chose que la pure production artistique. Mais ça, je dois dire que ça reste quand même une minorité, et ils auraient vraiment besoin que ça fasse partie de cours de manière régulière, à savoir comment on crée ce qui est assimilé à de l'auto-entreprise, mais ce n'est pas réellement, et comment on peut ne serait-ce que savoir lire un contrat avec une collectivité publique, avec une galerie, comment on se débrouille, en somme. Un manque.
On est un entrepreneur, on fait une forme, en tout cas, d'entrepreneuriat quand on devient artiste, quand on cherche à le devenir, Nathalie Hennig.
Oui, en fait, le statut est celui des professions libérales. Hein. Mais je voulais revenir sur la question de ce que les sociologues appellent la pluriactivité, qui est le lot de tous les créateurs, pas seulement les artistes plasticiens, mais aussi les auteurs, les musiciens. C'est-à-dire que pour pouvoir créer, pour pouvoir vivre en attendant que leur création, leur
leur permette de gagner leur vie, beaucoup d'entre eux exercent par exemple l'enseignement, hein. Ils peuvent être professeurs dans une école d'art ou font des petits boulots comme on dit, et c'est vraiment le lot de la plupart. Alors ça a évidemment des contreparties problématiques, et ça vient d'être dit, sur le fait que ça prend du temps, c'est un compromis sur le temps que l'on peut donner à la création, mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la garantie d'une liberté de création, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas entièrement dépendant de la demande du marché, et que dès lors qu'on ne compte pas uniquement sur sa création pour vivre, on peut faire une création qui ne soit pas immédiatement vendable, qui ne soit pas immédiatement, disons, dans ce qui se fait et ce qui se demande. Et donc, on a une beaucoup plus grande liberté par rapport au marché. Et donc, je crois qu'il faut vraiment prendre en compte les deux éléments. C'est toujours problématique, c'est toujours un compromis d'être un créateur. Il faut toujours faire un compromis sur quelque chose. Et il ne faut pas oublier que le compromis sur le temps qu'on fait en ayant plusieurs activités, c'est en même temps un gage de liberté par rapport au marché.
Voilà, donc la question c'est aussi celle du dosage entre ce qui relève de sa pratique artistique, de sa création artistique, et puis ce qui relève des activités annexes. Vous vouliez réagir, Grégory Gérard ?
Oui, réagir sur cette question des contenus professionnels dans la formation en école d'art. C'est vrai que les écoles d'art ont peut-être pris un certain temps à inclure dans les cursus des contenus de ce type, mais il faut reconnaître qu'elles s'y sont collées. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant, j'allais dire depuis une bonne dizaine d'années, ces préoccupations, ces problématiques, ces questions sont abordées de façon plus ou moins importante, notamment à l'occasion de journées professionnelles, notamment à l'occasion de conférences, etc. quoi.
Marion Verboom, vous avez fait quelle école, vous, et vous êtes sortie en quelle année ?
J'ai fait les Beaux-Arts de Paris, je suis sortie en 2009, mais ça a été suivi pendant 2 ans d'un post-diplôme à Amsterdam.
Et est-ce que dans la formation que vous avez reçue, vous étiez suffisamment armé pour devenir, derrière, pour avoir une activité d'artiste plasticienne, ou bien est-ce que vous avez découvert finalement ce que cela demandait peut-être d'énergie en dehors justement de sa seule pratique artistique pour réussir à en vivre?
Ouais, c'est vrai que de toute façon, moi j'ai été très naïve depuis le début. J'ai voulu être artiste depuis longtemps, et j'avais absolument pas la question financière
Vous disiez quoi, je vais produire des œuvres, on va me les acheter, je verrai bien et tout.
Non, en fait, je suis très naïve, je pense, et je me suis jamais posé cette question avant d'avoir des réelles difficultés financières. Mais c'est pour ça, en fait, moi j'ai eu aussi cet avantage en sortant de l'école des Beaux-Arts de Paris de partir 2 ans à Amsterdam, et j'avais un atelier et une bourse. Parce que quand on est artiste, la plus grosse problématique, c'est vraiment le coût de l'immobilier, de l'espace. Et là-dessus, enfin, je pense qu'il est aussi important de dire qu'on a quand même des petits dispositifs qui permettent... Enfin, il ne faut pas être non plus trop misérabiliste. On n'est pas à la rue. Moi, j'ai un atelier logement, et c'est vrai que ça m'a sauvé aussi pour ma production.
Un atelier logement, ça veut dire que c'est dans votre logement que se trouve votre atelier.
Je travaille au même endroit.
Ouais, ce qui évite d'avoir 2 loyers à payer, ça permet de mutualiser un peu plus.
Et avec un loyer que je paye au prorata en fonction de ce que je gagne.
Alors, il y a quand même une particularité qui est propre aux artistes plasticiens par rapport au monde un peu plus large, alors rappelons-le, celui de la création du spectacle, c'est la question de l'assurance chômage. Caroline Sherman, c'est-à-dire que quand on est plasticien, on ne relève pas de ce régime-là, ce qui est quand même aussi un obstacle pour être un peu sécurisé justement dans sa pratique.
Oui, en fait, la question pour aplanir, assainir, simplifier, il faudrait simplifier, à vrai dire, le régime de l'artiste plasticien pour que déjà les artistes plasticiens s'y retrouvent dans ce régime, notamment au terme de leur propre cotisation à eux. Mais surtout, est-ce que le régime chômage de l'intermittence, par exemple, qui est appliqué pour les comédiens, les artistes interprètes, les techniciens du spectacle, est-ce qu'il peut s'appliquer aux artistes, qui leur permettrait effectivement d'avoir une assurance chômage lorsqu'ils ne travaillent pas? Or, les deux régimes sont très différents, puisque les gens qui relèvent du régime de l'intermittence, les gens du spectacle, sont des gens qui sont salariés, qui sont sous lien de subordination. On les fait travailler pour leur présence. Les artistes plasticiens, on focalise davantage sur l'œuvre matérielle et éventuellement cerise sur le gâteau sur les droits de diffusion. Mais je dis bien cerise sur le gâteau. Donc
le régime de l'intermittence appliqué au monde des plasticiens, Nathalie Hennig, ça serait... C'est quelque chose d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, qui est à l'étude ou c'est totalement exclu?
Je crois que c'est quelque chose qui est demandé par certains artistes, mais qui est c'est une revendication très marginale parce que elle romprait avec une distinction fondamentale qui est pour le moment la distinction en droit qui est acceptée à peu près de façon générale, qui est la distinction entre des œuvres qui résident dans un objet matériel qui peut se vendre et circuler sur un marché. C'est ce que le philosophe Nelson Goodman appelle les œuvres autographiques. Et puis, d'un autre côté, les œuvres qui résident dans un objet qui peut se multiplier à l'infini parce que ce n'est pas l'objet matériel qui porte l'œuvre, mais l'intention de l'artiste. Et c'est par exemple le cas de ce qu'on appelle les œuvres littéraires, les œuvres musicales, etc. Enfin, tout ce qui relève de la création littéraire ou musicale et qui réside, qui se matérialise dans des livres ou dans des partitions. Mais l'œuvre ne réside pas dans le livre ou la partition, mais dans ce qui a précédé et qui a permis la création de l'œuvre. Et c'est ce que Goodman appelle les œuvres allographiques. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'avec l'art contemporain, on a un glissement de la première catégorie vers la seconde catégorie, c'est-à-dire que de plus en plus, ce qui est proposé, notamment via les installations et les performances, ce sont des œuvres qui résident dans des éditions éventuellement multipliables à l'infini, de propositions d'artistes qui, du même coup, ne résident plus tant dans l'objet matériel qui se vend, mais dans la performance de l'artiste. Lorsque, par exemple, il va monter son installation ou il va proposer sa performance. Et du même coup, ce glissement vers le régime des œuvres littéraires ou des œuvres musicales, en tout cas des œuvres allographiques, fait qu'on voit apparaître des revendications d'artistes qui disent « mais il n'y a pas de raison, je suis comme un interprète de théâtre ou de musique, comme un acteur ou comme un musicien, pourquoi est-ce que moi aussi je ne toucherai pas un cachet pour ma performance d'artiste ?» Et c'est ça qui provoque aujourd'hui cette ambiguïté dans le statut.
Est-ce que cette revendication-là, elle fait partie des revendications que vous portez, Grégory Jérôme, à travers le collectif Économie solidaire de l'art ?
Alors celle de l'intermittence qui serait appliquée au secteur des arts plastiques, non. Ça ne nous semble pas quelque chose de facilement possible parce que on ne règle pas la question de la rémunération du travail artistique, puisque l'intermittence s'appuie bien sur un certain nombre d'heures effectuées permettant d'accéder à ce régime d'assurance chômage spécifique. Or, ce dont il est question principalement dans notre sujet, c'est bien la rémunération du travail artistique. Si celle-ci vient à manquer, la question d'un régime assurantiel ne peut pas être, on va dire, une réponse. Donc, ce qu'on a peut-être tout juste abordé ou insuffisamment abordé, c'est précisément les situations qui devraient conduire à rémunérer le travail artistique.
Puisque, comme prenons justement une situation, puisqu'on est à la FIAC, avec des galeries qui exposent des artistes. Donc, on est dans un cadre d'exposition, qui est peut-être un cadre d'exposition un peu particulier, puisqu'on est aussi dans un marché, donc c'est un format un petit peu hybride. Mais est-ce que dans ce cadre-là, par exemple, quand on expose, de manière un peu générale, est-ce qu'on a toujours une rémunération, ou bien est-ce que c'est soit à la tête du client, soit en fonction de l'institution, institution au sens un peu large, qui accueille vos œuvres? Vous qui avez cette petite expérience, Marion Verboom, est-ce qu'à chaque fois que vous exposez, vous touchez de l'argent ?
Non, pas du tout.
Est-ce qu'à chaque fois que vous exposez, vous ne touchez rien ?
Non, mais ça dépend de l'endroit où on va exposer. C'est-à-dire que quand j'expose dans une galerie, j'espère faire des ventes. Donc, mon revenu va être...
Lié à ce que vous allez vendre.
Lié à ça. Par contre, en institution, c'est souvent des rémunérations très, très symboliques.
C'est symbolique, ça peut être de quel ordre ? C'est-à-dire institution, imaginons, par exemple, le centre Pompidou.
Ça dépend du temps, qu'on passe dessus. Là, ça fait un an que je travaille sur un projet dans une institution et je suis rémunérée 4000 euros.
Caroline Schirman, vous qui avez la double expérience à la fois du centre Pompidou et puis de la galerie, qui est une galerie privée, j'imagine, est-ce que les artistes que vous exposiez étaient systématiquement rémunérés au titre du fait qu'ils exposaient simplement. Je ne parle pas des ventes.
Et c'est une vraie question. C'est la rémunération d'un des droits d'auteur, qui est le droit d'exposition, de diffusion, de monstration, peu importe comment on l'appelle. En fait, c'est toujours pareil avec les plasticiens, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés sur la vente matérielle de l'œuvre. Et une galerie ne peut pas décemment rémunérer sur le droit d'exposition, tout simplement parce que ça lui ferait un poste budgétaire en plus. Vous avez la même question dans les établissements publics, que je fréquente encore beaucoup, puisque j'en conseille certains. Les établissements publics ou les collectivités territoriales, direction d'affaires culturelles, se posent aussi la question, et peut-être un peu plus grâce à la charte de Grégory Jérôme. Effectivement, ce poste de la rémunération de l'exposition d'une œuvre matérielle est quelque chose qui n'est pas du tout entré dans les mœurs, alors qu'on ne se pose pas du tout la question pour diffuser de la musique ou de la vidéo. Il y a vraiment une source, des sources multiples d'entrée de revenus. En tout cas, celle-ci, elle pose encore problème.
Ça veut dire que ça n'est pas juste une question de moyens, c'est aussi une question de culture qui n'existe pas aujourd'hui dans certaines institutions. Vous êtes d'accord avec ça, Grégory Jérôme ?
Relativement. Je crois qu'on a été un peu trop vite dans l'esquisse du paysage dont il est question là. En fait, il y a à côté du marché un secteur, un tout un pan qui ne se réduit pas à la vente et à l'achat d'œuvres, quoi. Ce dont parle précisément ma voisine. En l'occurrence, il y a le secteur marchand et le secteur non marchand. Il ne faut jamais l'oublier parce que ça pourrait laisser penser que le secteur... Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que le secteur a une nature biface en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a tout le pan, on va dire, associatif, non marchand, institutionnel, qui est... qui marque largement la trajectoire des artistes. Et ce passage par ces lieux qui sont prescripteurs, qui ont pour effet de constituer la valeur d'abord symbolique pour ensuite la convertir en valeur économique, ne doit pas rester dans l'invisibilité, parce que c'est ça qui compte beaucoup là dans ce parcours.
Mais est-ce cette façon de rendre visible des artistes, est-ce que c'est aujourd'hui l'argument qui peut être avancé pour dire aux artistes, on ne vous propose pas de rémunération, mais la rémunération, elle est d'ordre symbolique, mais c'est un capital qui va être un capital fort, c'est-à-dire une forme de notoriété, Nathalie Hennig.
Oui, c'est certain qu'une exposition, notamment dans un musée ou dans un lieu public...
Je vous laisse recommencer parce qu'on vous a un petit peu perdu au début.
Oui, voilà. Alors je disais simplement qu'il faut bien faire la différence entre, en effet, le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur privé des galeries, tout ce qui peut se faire éventuellement par la galerie, c'est aider à la production d'une œuvre lorsqu'elle est tellement monumentale que l'artiste ne peut pas la produire lui-même et la galerie se remboursera sur la vente. En revanche, dans le secteur public, il y a en effet cette dimension de promotion par l'exposition qui peut consister en une sorte de rémunération symbolique, mais il y a aussi la question de la présence de l'artiste qui est particulièrement importante en art contemporain et qui fait que les artistes sont souvent sollicités par les institutions pour venir faire des conférences, présenter leurs œuvres. Et là, en effet, on a quelque chose qui est de l'ordre du cachet d'interprète, et on peut parfaitement envisager que ces institutions rémunèrent sous forme d'un cachet ces interventions.
Et d'ailleurs, logique.
Elles le font souvent, mais ce sont des petites sommes. C'est pas avec ça qu'un artiste pourra vivre. Et dernière chose, et c'est là, à mon avis, que le problème est le plus important, c'est la question de la production des œuvres par les institutions publiques. Dès lors qu'une institution, par exemple, comme le Centre Pompidou, propose une exposition à un artiste contemporain qui va, à cette occasion, produire des œuvres assez onéreuses, qui seront produites avec les moyens de l'institution, si ces œuvres ensuite reviennent à la galerie, qui les revend, il serait normal du point de vue de la comptabilité publique que le coût de production de l'œuvre remonte ensuite à l'institution qui l'a produite. Sinon, c'est un détournement de fonds publics. Or, cette question est très problématique parce que cette remontée de l'argent est très rarement faite. On a l'exemple, par exemple, d'une grosse installation de Jeff Koons en 2000 dans l'exposition La Beauté à Avignon, qui était une forme de l'installation qui s'appelle Puppy, donc, qui était très, très monumentale et très onéreuse, qui a été donc montée aux frais de l'État en 2000, qui a été vendue l'année suivante par la galerie de Jeff Koons à François Pinault. Et apparemment, l'État n'a jamais vu le montant de cette transaction. Et là, il y a en effet des abus, et c'est là, je crois, qu'il faut faire très attention.
Caroline Sherman.
Oui, moi je voulais simplement clarifier mon propos s'il était pas très clair. Les sources sont multiples. Voilà, donc c'est très complexe la rémunération des artistes. Donc une galerie, elle va vendre l'œuvre matérielle, donc l'artiste va avoir sa commission sur l'œuvre matérielle. Il ne sera pas question de droit d'auteur, puisque vous savez qu'on a deux choses, on peut avoir deux sources de rémunération.
La commission d'ailleurs, elle se négocie de gré à gré, ou bien il y a un pourcentage qui est à peu près toujours le même?
L'usage veut qu'il s'agisse de 50% pour la galerie et 50% pour l'artiste. Après, chacun récupère ses coûts de production s'il les a avancés. Dans les collectivités publiques territoriales, dans les musées, les sources sont extrêmement diverses. Je peux vous dire que les contrats sont très divers aussi. Si le musée est propriétaire de l'œuvre, ça va lui paraître compliqué de payer l'artiste en droit d'auteur s'il doit l'exposer alors qu'elle est déjà dans son stock. C'est quelque chose qu'effectivement est en discussion depuis des dizaines d'années. S'il aide à la production ou il commande une œuvre publique, bah, l'argent est versé. Et s'il fait intervenir un artiste dont il ne détient pas les œuvres, mais pour faire une exposition, il va probablement le rémunérer pour la conception, la réalisation. Mais on en arrive à des choses effectivement parfois un petit peu étrange par rapport au statut, c'est que les artistes sont mieux rémunérés en tant que techniciens de l'installation de leur propre œuvre plutôt qu'en tant que droit d'auteur ou en tant que diffusion sur leur œuvre. Donc c'est sûr qu'il faudrait lisser un petit peu.
Vous vous reconnaissez dans cette diversité que vient de décrire Caroline Sherman, Marion Verboom?
Oui, sauf que je n'ai pas exposé à Beaubourg ou au Musée d'Art Moderne encore. Donc je n'ai pas eu des contrats où j'avais... une production démentielle, mais j'ai signé des contrats où je m'engageais à rembourser une partie de la production en cas de vente. Oui, ça c'est...
Les coûts de production, ils sont toujours pris en charge par les galeries, par les institutions, ou bien il vous arrive, à vous aussi peut-être parfois, d'avancer l'argent et de devoir un petit peu insister pour qu'on vous rembourse ces coûts?
Oui, parce que effectivement, c'est pas une science exacte. Donc on est quand même mené par le flot de notre énergie créative.
C'est-à-dire, par exemple, vous avez une commande, vous faites quoi? C'est-à-dire, vous faites comme un devis, ça va coûter tant?
Ouais, on fait un devis de matériaux. Les matériaux, on essaye d'estimer la quantité de matériaux qu'il va nous falloir, mais c'est souvent assez... Ça varie finalement parce que le projet, on imagine le projet à la base comme il doit être dans notre tête, mais finalement au cours de la réalisation celui-ci évolue et le nombre de matériaux demandés à l'institution, c'est souvent, pour ma part en tout cas, c'est souvent à la baisse et je demande souvent des rallonges.
Alors Grégory Jérôme, en revenant justement à cette question de la charte que vous proposez avec le collectif Économie solidaire de l'art, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous voyez, il nous reste déjà plus qu'une grosse dizaine de minutes, donc il faut qu'on avance un petit peu. Dans ce que vous proposez, vous proposez quoi? Cette charte aux institutions, aux galeries, pour avoir une approche un peu plus éthique, disons, peut-être, justement, et que la redistribution de l'argent, parce que de l'argent dans le milieu de l'art, ça ne manque pas, a priori, c'est peut-être en termes de redistribution que là, ça pêche un petit peu aujourd'hui.
Exactement. En fait, la situation aujourd'hui présente une difficulté qui est celle de l'absence de conventions ou de normes qui encadreraient la rémunération du travail artistique. Ce que vise la charte, c'est précisément l'adoption d'une telle norme ou convention permettant de sortir d'une situation qui est celle du moment, c'est-à-dire chacun est renvoyé à sa propre situation et à son propre isolement dans un rapport de force qui est généralement très déséquilibré entre l'artiste et la structure qui l'accueille. Dans ces conditions, on peut comprendre que l'artiste soit souvent conduit à renoncer à requérir ou à exiger d'être rémunéré.
On parle beaucoup de liens de subordination dans le cadre des relations classiques de travail dans le monde du salariat. On pourrait l'appliquer aussi au monde de l'art, où c'est celui qui produit qui n'est pas forcément celui qui crée qui est en position de force.
C'est évident. Mais sans aller jusqu'au lien de subordination, parce qu'il n'est pas question d'un lien de subordination. Il est question d'un rapport de force qui n'est pas équilibré. Et c'est d'ailleurs ce qui définit toujours le droit d'auteur. En fait, dans un contrat entre un producteur et un auteur, on considérera toujours que l'auteur est la partie faible au contrat. Cette reconnaissance-là appelle, de notre part, collectivement, de l'inscrire dans des principes permettant de rééquilibrer le rapport de force.
Et ces principes-là, aujourd'hui, la charte, vous la proposez, est-ce qu'elle est, quel écho elle rencontre ? Est-ce qu'il y a des institutions qui l'ont déjà signée ou...
Alors oui, il y a des lieux qui l'ont déjà signée, il y a des centres d'art qui sont exemplaires en la matière, il y a des FRAC qui vont pas tarder, je pense, à l'appliquer, il y a des lieux associatifs, d'ailleurs, qui s'engagent à l'adopter. Et généralement, c'est pas forcément en proportion de l'importance de leur dotation. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de fond qui, on l'espère, va conduire à améliorer la situation, tout simplement, parce qu'on part de rien, quoi, de zéro.
Nathalie Hennig.
Oui, je pense que là aussi, il faut faire une distinction entre le régime du salariat, dont relèvent en effet les liens de subordination et ce qui vient d'être dit, et le régime des indépendants. Or, les artistes sont dans le régime des indépendants. Ce ne sont pas des salariés. Bon.
Et, oui, mais c'est une fausse indépendance, hein, manifestement. Alors, enfin, en tout cas, ce n'est pas une totale indépendance.
Mais tout dépend du rapport de force. Quand on est un indépendant, tout dépend de la loi de l'offre et la demande. On est dans un marché, on est en rapport de force si ce qu'on fait est très demandé, on est dans un rapport de faiblesse si ce qu'on fait n'est pas demandé. Tout dépend, évidemment, du rapport de force qu'on réussit à établir par sa propre création. Mais je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que les métiers de création, les activités de création ont dans notre société un régime un peu particulier qui n'est pas rabattable sur le régime du salariat. Quand on est salarié, on travaille pour gagner sa vie. Quand on est un créateur, on peut dire plutôt qu'on gagne sa vie pour pouvoir créer. Hein. Il y a vraiment ce que j'appelle le régime vocationnel, c'est-à-dire qu'il y a un désir de création qui fait qu'il est premier par rapport au reste et que le fait de gagner de l'argent n'est pas censé être la priorité de l'artiste. Bon, il est bon qu'il gagne sa vie, mais c'est pas considéré comme étant la visée principale. Et du même coup, je pense qu'on ne peut pas appliquer à ce régime de la création artistique les mêmes règles qui s'appliquent dans le monde du salariat, que ce soit en termes de protection, que ce soit en termes de enfin, il n'y a pas de salaire. On ne salarie pas un artiste. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le prendre en compte parce que avec ce mot artiste, on a tendance à tout mélanger. On mélange les intermittents du spectacle, les interprètes, les créateurs de pièces uniques. Et on ne peut rien comprendre si on mélange tout ça.
Caroline Sherman.
Oui, tout à fait. Et effectivement, l'artiste, est-il une entreprise comme les autres? C'était une question à poser. Même l'espace-temps de l'artiste n'est pas celui de l'entreprise. Donc, il ne peut pas faire exactement comme un auto-entrepreneur. Donc, c'est vrai qu'il lui faut un statut qui lui est propre. Et surtout, il a besoin d'un promoteur. Il a besoin d'une galerie. Il a besoin d'un lieu pour diffuser. Il peut difficilement avancer. Beaucoup d'artistes n'ont pas tous cette double qualité. Il peut difficilement avancer tout seul pour diffuser ses œuvres.
Comment est-ce que vous avez fait, vous, Marion Verboom, jusqu'à présent, pour ne pas avancer toute seule, pas complètement toute seule, et d'être un peu accompagnée? C'est-à-dire, comment on se retrouve, finalement, à être prise en charge, comment il faut dire, par une galerie, par exemple?
De toute façon, il faut être inscrit dans la communauté intellectuelle et artistique. Ça, c'est très important. En fait, il faut avoir une sorte d'équilibre entre la bulle et la coquille qu'on va se fabriquer à l'atelier et le monde qu'on va s'imaginer dans nos têtes et savoir s'extérioriser.
Et comment s'extérioriser? C'est-à-dire vous allez frapper à la porte des galeries pour leur dire
non,
voilà,
c'est des amis, des affinités électives, des critiques d'art, des amis artistes avec lesquels on va pouvoir être généreux et en retour seront généreux. Enfin, c'est tout un système D en permanence.
Est-ce qu'on peut parler de réseau, de nécessité d'avoir un réseau, ou c'est un terme qui
c'est
convient pas tout à fait?
Affinité élective, c'est-à-dire qu'il y a des tribus aussi. On ne peut pas s'entendre avec tous les artistes, on ne peut pas s'entendre avec tous les critiques d'art, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont faire avancer notre travail et qui vont parfois nous aider sur une commission ou venir à l'atelier avant une grande expo pour pouvoir avoir un retour et pouvoir justement percer cette coquille qu'on s'est construite quand on produisait notre œuvre. Et en tout cas, c'est vraiment nécessaire justement d'avoir ce côté un peu binaire, voilà, d'isolation et en même temps de quelque chose de très extraverti. Et souvent aussi, je voulais dire par rapport aux frais de production, mais c'est l'artiste, il n'a aucun parachute, c'est quand même lui. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'avance tous les frais. Si j'ai une exposition à la galerie, c'est moi qui paye tous mes matériaux. Si j'ai besoin de main d'œuvre, c'est moi qui paye. C'est très important. C'est extrêmement rare que nos œuvres soient produites.
Nathalie.
Mais Marion Verboud nous a dit qu'elle a bénéficié donc d'un atelier logement et d'une bourse. Et donc, il faut aussi savoir que, surtout en France, on a un système d'aide aux artistes qui est quand même très développé. On a beaucoup, beaucoup de subventions pour des résidences, des bourses, des ateliers, etc. Donc, les artistes ne sont pas tout seuls. Les jeunes artistes qui commencent ne sont pas lâchés tout seuls comme ça dans la nature. Ils bénéficient quand même d'un réseau d'aide qui est important. Et on parlait de redistribution. L'organisme de sécurité sociale des artistes, qui est la Maison des artistes, opère cette forme de redistribution puisqu'il y a des cotisations proportionnelles à ce qui est gagné par les uns et par les autres. Et ceux qui gagnent beaucoup, eh bien, vont abonder les fonds de la Maison des artistes qui profiteront à ceux qui gagnent moins. Donc il y a quand même un système de redistribution qui existe via les assurances sociales.
On est presque au terme de l'émission. Il y a une question, la question peut-être une des questions qui fâche qu'on n'a pas encore posée, puisqu'on parle de problèmes de redistribution de cet argent qui existe dans le monde de l'art et du grand nombre d'artistes. Vous disiez tout à l'heure en début d'émission, Nathalie Hennick, on a vu une explosion du nombre de personnes qui se sont affiliées. Est-ce que la question du trop grand nombre d'artistes aujourd'hui, elle se pose dans le monde des plasticiens? Et là, je vous pose la question à tous les quatre, sachant qu'on est presque au bout de la discussion. Grégory Jérôme,
Je suis pas sûr que ce soit véritablement le problème central, la question du nombre, quoi.
Eh ben, on peut dire que moins il y a d'artistes, plus la redistribution peut se faire de manière un peu plus équilibrée.
Ça laisserait penser que la situation aurait été plus vertueuse un petit peu avant, ce qui n'est pas le cas. Pour revenir quand même rapidement sur la question,
sur
la question du régime de sécurité sociale spécifique dont bénéficient les artistes auteurs, effectivement, il faut quand même se rappeler que, et c'est un paradoxe, c'est que il est effectivement très bien fait pour les artistes. Le taux de cotisation est relativement peu élevé au regard des autres régimes de sécurité sociale. Ceci étant, ça conduit du coup pas mal de structures à recourir à ce régime de façon complètement conforme. Et ça, c'est aussi une chose qu'il faut absolument souligner, parce que on parlait peut-être des assistants tout à l'heure ou des régisseurs, etc. Eh bien, il arrive souvent que, compte tenu de l'intérêt de ce régime, on l'utilise à mauvais escient.
Pour terminer sur la question donc que je posais du trop grand nombre d'artistes, je sais bien que c'est évidemment, je la pose de manière un petit peu provocante, cette question, mais est-ce que cette question, peut-être que si vous aviez moins de concurrence, Marion Verboom, vous seriez déjà au Centre Pompidou.
C'est une question un peu absurde, parce que justement, on a besoin de voir l'art vivant fluctuer, justement, on a besoin de voir énormément d'intervenants et de différentes propositions, et ça serait triste autrement.
Plus il y a d'artistes, plus il y aura des choses intéressantes, Caroline Sherman.
Oui, et puis on n'a jamais assez d'artistes, hein, j'ai envie de dire. On a besoin des artistes, donc il en faut toujours plus. Mais il faut trouver des sources de revenus. Je pense qu'il faut simplifier le régime. Le régime de l'auto-entreprise, entre guillemets, appliqué à l'artiste pour qu'il s'y reconnaisse plus facilement. Et il faut trouver des sources beaucoup plus systématiques de revenus via des sociétés de perception et répartition des droits peut-être mieux organisées, via Internet, via la diffusion de l'image et via aussi, effectivement, les multiples sources sur les centres d'art, musées et ainsi de suite.
Nathalie Hennick, vous allez nous démontrer que vous avez un art de la concision absolument
au 19e siècle, il y a eu un effet d'attractivité très grand de la peinture et de la sculpture qui a abouti à une énorme augmentation du nombre d'artistes, qui aboutit à une paupérisation, d'où la fameuse vie de bohème. Et on assiste à la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un statut très attractif, notamment parce qu'il bénéficie de certaines protections, entraîne une grande attractivité aussi parce qu'il est très prestigieux d'être un artiste, et du même coup une paupérisation qui est un des effets pervers du relatif élitisme de ce statut.
Eh bien, ce sera la conclusion, comme chaque soir, non définitive de cette discussion à laquelle je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Marion Verboom, Nathalie Hennick, Caroline Schirman et Grégory Jérôme. Les références des sites, des ouvrages, des chartes, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richie, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son ce soir Christian Larondès et Alexandre James.